le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue à cette édition du magazine des Nations Unies, une édition spéciale parce que c'est la centième de cette émission et aussi la dernière de l'année qui s'achève dans 72 heures. Voici les titres que nous développerons tout au long de ce magazine. La Banque mondiale loue les performances économiques de la RDC de ces dernières années avec une croissance positive de 7 à 8%. Mais dans son dernier rapport, cette institution reconnaît en même temps que cette croissance est loin de réduire la pauvreté. Dans cette édition, un expert de la Banque mondiale explique pourquoi dans Actu de la semaine. La MONUSCO en campagne de sensibilisation à la paix à travers sa division de l'information publique. Une invitée dans ce magazine, Aïssatoula Batouré, coordonnatrice de la section Outreach, va vous expliquer l'intérêt de cette campagne. Enfin, nous irons pour notre nouvelle en province au sud Kivu, à Fizi, où les établissements supérieurs et universitaires vont être désormais sensibilisés aux idéaux des Nations Unies grâce à la mise en place des clubs et association UNESCO. Voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
La Banque mondiale n'a jamais développé un pays. La Banque mondiale contribue au développement des pays qui veulent se développer. C'est une déclaration du directeur sectoriel de la macroéconomie et gouvernance de la Banque mondiale pour la région des Grands Lacs. Une déclaration faite à Radio Okapi à la suite d'un rapport de cette institution sur la situation économique de la RDC. Dans ce rapport, la Banque mondiale reconnaît les performances réalisées ces dernières années par l'économie congolaise, tout en soulignant que ces embellies n'ont pas un impact social positif. Albert Zefak explique ici les raisons de cette situation. Il est au micro de Daniel Tambizoni.
Nous sommes les premiers à reconnaître que, en fait, cette croissance de 7 à 8% ne se traduit pas par une réduction significative de la pauvreté. La raison, c'est que cette croissance est tirée par des sources qui ne sont pas redistributives. Les sources de cette croissance sont essentiellement le secteur minier et le secteur agricole. Le secteur minier, de par le monde, n'est pas un secteur qui crée beaucoup d'emplois. C'est un secteur intensif en capital. Le secteur agricole en RDC est malheureusement très peu productif et donc ne crée pas des emplois productifs qui peuvent amener la population à améliorer son niveau de vie. Donc, quand vous comprenez les sources de cette croissance, immédiatement, vous comprenez qu'il est impossible que les populations en ressentent les effets. La deuxième chose fondamentale, c'est que les pays n'avancent que s'ils arrivent à accumuler un stock de capital humain. Et cela signifie avoir un système éducatif qui marche. Les besoins de la RDC sont immenses. La Banque mondiale ne peut apporter qu'une petite contribution. Et je voudrais peut-être prendre l'opportunité pour vous dire qu'il ne faudrait pas que les Congolais attendent que la Banque mondiale vienne développer le Congo. La Banque mondiale n'a jamais développé un pays. La Banque mondiale contribue au développement des pays qui veulent se développer. Donc il faut que les pays s'organisent d'abord à résoudre ces problèmes fondamentaux et la Banque mondiale les y accompagne. Et c'est pour ça que nous avons identifié le troisième défi le plus important, c'est améliorer la gouvernance.
Autre actualité de la semaine, nous sommes pendant la période des fêtes de fin d'année. Mercredi dernier, c'était la fête de Noël. Et dans trois jours, ce sera la fête de la Saint-Sylvestre. C'est donc une période de solidarité et de partage avec les démunis. Voilà qui explique le geste du contingent ghanéen de la MONUSCO envers les personnes du troisième âge, du Home Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa et des enfants de l'orphelinat de l'œuvre du centre de reclassement et de protection des enfants de la rue situé sur l'avenue Irebou dans la commune de Kassavubu. Honoré Missenga-Kalala a accompagné le contingent ghanéen dans cette action. C'était le jeudi 26 décembre dernier.
La délégation ghanéenne est conduite ce jeudi 26 décembre par le major Franck, dans sa suite une vingtaine de militaires, hommes et femmes, du contingent ghanéen de la MONUSCO avec des dons à offrir. Première étape, le home des vieillards Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa. Un capitaine ghanéen explique l'objet de la visite à la directrice de l'hospice, la sœur Julienne Mbouyamba.
Notre enjeu du bataillon ghanéen de la MONUSCO 8, ce sont eux qui ont décidé que aujourd'hui, nos bataillons 8 seront ici et vous faire le cadeau, ce que vous voyez ici.
Ensuite, ce Larimis Didon, constitué notamment d'une machine à laver, de quelques sacs de riz de 25 kg et de quelques sachets de détergent. Ils sont au total 30 pensionnaires de cet hospice, dont 12 femmes. Seulement 3 d'entre ces personnes du 3e âge sont venues assister à la remise de ces dons. La sœur Julienne Mbouyama remercie les bienfaiteurs du jour.
Nous tenons à vous remercier d'avoir pensé à nous, pensé à nos vieillards qui habitent cet homme. Au nom de tous nos vieillards et à mon nom propre, nous vous disons merci de votre présence ici chez nous et aussi pour le cadeau que vous leur avez apporté.
Un des bénéficiaires ne retient pas non plus son émotion.
Je me nomme Mukanza David. En tout cas, mon cœur est inondé de joie. Merci aux militaires du contingent ghanéen de la MONUSCO. C'est un grand plaisir de le voir venir nous visiter.
Deuxième et dernière étape. Après la commune de Kinshasa, le cortège du contingent ghanéen met le cap sur le centre Père Gérard où sont hébergés une 60aine d'enfants dits de la rue, parmi lesquels des orphelins. Presque tous sont au rendez-vous. Là, le lot des biens remis est plus important. 24 matelas, un congélateur doublé d'un stabilisateur, quelques sacs de riz, plus une centaine de livres, des cahiers, des bandes hygiéniques pour les filles. En dehors de cette action de charité, le contingent ghanéen a ouvert un centre médical à son siège du quartier Sosimat, où chaque mardi et chaque jeudi, tous ceux qui ont des problèmes de dents peuvent aller se faire consulter ou se faire soigner gratuitement.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La journée internationale des migrants est célébrée le 18 décembre de chaque année, une semaine avant la fête de Noël donc. Et à l'occasion de cet événement, le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, William Swing, a déclaré qu'au moins 2360 migrants ont péri cette année en poursuivant le rêve d'une nouvelle vie. Mais pour Swing, ce chiffre est loin de la réalité. Nous ne connaîtrons jamais le nombre exact puisque de nombreux migrants meurent incognito dans les déserts, les océans ou d'autres accidents, a-t-il indiqué. Alors, il y a une année, le magazine des Nations Unies avait reçu dans sa rubrique décryptage l'administrateur chargé des relations extérieures de l'OIM, RDC. Nous revenons sur cet entretien que Sefu Kawaya avait eu avec Honoré Missenga, entretien dont le thème était justement la migration.
Monsieur Sefu Kawaya, bonjour.
Bonjour.
L'ambition de l'OIM en République démocratique du Congo et sa stratégie 2012-2013, c'est l'intitulé d'une brochure que votre agence vient de publier. Et dans cette brochure, vous dites que le mandat institutionnel de l'OIM repose sur 4 domaines clés de migration. Alors, M. Sefou, d'abord, la migration implique quoi?
D'une manière générale, la migration est une vieille notion, elle est historique, il suffit pour chacun de considérer simplement la configuration actuelle du monde, on verra bien que la migration a été à la base des déplacements de peuples et que là où ils se trouvent aujourd'hui, les différents peuplements proviennent d'ailleurs. Donc l'implication diffère selon qu'il s'agit du pays d'accueil ou du pays d'origine. Dans le pays d'accueil, il est vrai que la migration pose un problème d'accueil. Ça pose un problème de gestion de personnes qui arrivent nouvellement dans le pays en termes de besoins, de la manière de les placer, de centre d'accueil. Et ça peut être également des préoccupations pour le pays. Toujours dans le pays d'accueil, lorsque les gens arrivent et qu'ils ont énormément de besoins, ça peut dépasser la capacité des États. L'OIM, dans ces cas-là, se charge de gérer ces déplacements massifs tout en n'étant pas exclusivement dans ce qui concerne les réfugiés. L'OIM s'occupe essentiellement de tout ce qui a trait au phénomène migratoire.
Quelles sont les différentes catégories d'immigration?
Il y en a plusieurs. Les deux plus importantes, c'est justement l'immigration et l'émigration. Ceux qui quittent un pays donné émigrent et ceux qui viennent dans un pays donné immigrent.
Par rapport à ces deux concepts, quel est le rôle de l'OIM?
Le rôle de l'OIM en tant qu'organisation internationale intergouvernementale est d'être au chevet des États pour servir de conseil en matière migratoire. Nous avons l'expertise requise à cet effet et conseiller les États à la manière où il faut gérer les populations pour que la migration soit ordonnée, conseiller les gouvernements pour faire de sorte que les entrées dans les pays soient également ordonnées, que ça se fasse suivant les normes, afin qu'il n'y ait pas d'accroc majeur qui puisse mettre le pays en difficulté. C'est le plus grand rôle que nous jouons partout au monde, et notamment en République démocratique du Congo.
Oui, justement, dans le cadre de sa stratégie par rapport à la RDC, l'OIM parle de migration et développement, migration assistée, migration régulée, migration forcée. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces quatre sortes de migration?
Tout à fait. La migration et le développement, c'est-à-dire que l'OIM s'insère parfaitement dans la stratégie mondiale qui affirme que la migration est peut-être bénéfique pour tous les pays, pourvu qu'elle soit ordonnée. C'est ainsi que nous lions la migration au développement. À titre d'exemple, nous avons un programme qu'on appelle Programme Migration pour le Développement en Afrique, qui est un programme qui met en rapport le besoin en expertise dans les pays avec la présence de cette expertise dans sa diaspora à l'extérieur, et nous permettons donc des missions de la diaspora dans différentes institutions du pays en vue de les assister et d'amener une expertise qui soit rationnelle, conventionnelle, internationalement reconnue.
Et la migration assistée?
Dans la migration assistée, je peux vous donner un exemple très pratique. Le retour volontaire. L'OIM ne s'accommode pas, par exemple, avec des refoulements. Mais s'il se trouve des gens qui sont vraiment en difficulté et dans des pays étrangers et qu'ils se posent le problème de leur retour dans leur pays d'origine, l'OIM intervient s'il y a volonté de ces personnes de pouvoir entrer.
En collaboration avec l'OSR?
Pas nécessairement. En ce moment-là, il n'y a pas collaboration. L'OIM fait ce travail, c'est vraiment dans son mandat. Nous organisons des retours volontaires de personnes qui n'ont plus droit, par exemple, de rester dans un pays et qui étaient. Nous nous organisons pour le faire revenir dans leur pays de manière tout à fait honorable. C'est ça que nous faisons généralement dans le cadre de la migration assistée.
Et dans le cadre de la migration régulée et migration forcée?
D'abord, dans le cadre de la migration régulée, nous mettons à la disposition des États un certain nombre d'outils qui permettent aux États de pouvoir bien gérer les migrations. C'est ainsi que l'OIM se félicite actuellement d'avoir mis en œuvre, avec l'appui du gouvernement congolais plus spécifiquement, avec l'appui de la Direction générale des migrations, un programme intitulé « Gestion intégrale des frontières ».
Et moi sur la migration forcée?
La décision de quitter un lieu peut ne pas être volontaire. Elle peut être due, par exemple, à des catastrophes naturelles. Une éruption volcanique peut amener les gens, de masse de gens, à pouvoir quitter les lieux. Mais il y a également des migrations forcées qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle le trafic des êtres humains. Par exemple, tous ces gens qui font de fausses promesses aux gens, voilà, nous avons une possibilité de travail à l'étranger, nous voulons faire partir des gens, ils font déjà payer à ces gens-là quelques sous. Une fois arrivés sur place, ils se rendent généralement compte que tout ce qui a été promis était tout à fait fallacieux, et que y a rien de tout ça.
Et ces gens, ils peuvent attendre quoi de l'OIM à ce moment-là?
Lorsqu'il y a de tels cas, l'OIM les traite et organise le retour de ces gens dans leur milieu d'origine.
Oui, mais il y a aussi ce qu'on appelle les migrations irrégulières. C'est quoi?
La migration est dite irrégulière lorsqu'elle n'a pas suivi les normes. Tout départ d'un pays et toute entrée dans un pays est réglementée, et qu'il s'agit là des dispositions discrétionnaires que chaque pays prend. Lorsque vous devez quitter un pays X, vous devez remplir des conditions requises pour cette sortie, vous, national de ce pays-là. Dans les cas où vous entrez par des voies détournées, vous n'avez pas de documents, tout ça, vous voyez, ça rentre dans la catégorie de la migration irrégulière.
Monsieur Sefukaria, merci.
Des équipements médicaux pour l'hôpital général de référence de Virunga de Goma. Nous sommes au Nord Kivu. C'est un don du Fonds des Nations Unies pour la population, FNUAP. Il s'agit d'équipements de salles d'opération et de maternité. Selon le médecin directeur de cet hôpital, le docteur Kasereka Kichongo, la donation du FNUAP aidera certainement à diminuer le taux de mortalité maternelle et néonatale au sein de cette institution sanitaire. Le coût total du matériel est de 27 900 dollars américains. L'hôpital général de référence de Virunga sert à la fois la population de la commune de Karisimbi et celle du territoire territoire sinistré de Nirangongo, une population estimée à 600 000 habitants. La République démocratique du Congo a ses tout premiers observateurs militaires de Nations Unies. Ils sont au total 9 officiers congolais à avoir été formés par la MONUSCO à Kinshasa. La formation a duré 2 semaines. Elle s'est clôturée par la remise des certificats de participation aux lauréats le mardi 24 décembre au siège du contingent ghanéen de la MONUSCO. Avec cette formation, ces officiers militaires des phares d'essai sont ainsi déployables à travers le monde dans des missions de maintien de la paix par le gouvernement à travers le ministère de la Défense.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Dialogue interreligieux comme facteur de promotion de la paix, c'est le thème d'une campagne que mène pour la période allant de décembre 2013 à avril 2014 la division de l'information publique de la MONUSCO par le truchement de sa section Outreach. Et cela en partenariat avec le Conseil des laïcs, chrétiens et islamiques du Congo. Il s'agit en fait de la phase 2 d'une campagne démarrée en avril 2013. Aïssa Toula Batouré, coordonnatrice de la section Outreach, c'est elle, notre invitée de ce dimanche. Elle parle de l'intérêt de cette campagne en répondant aux questions d'Honoré Missinga Kanala.
Aïssa Toula Batouré, bonjour.
Bonjour.
La division de l'information publique de la MONUSCO à travers l'unité Outreach dont vous assumez la coordination, c'est dans une campagne de sensibilisation à la culture de la paix. Pourquoi cette campagne?
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire bonjour aux auditeurs de la radio Okapi. Pour répondre à votre question, c'est parce que les Nations Unies que nous servons prônent un certain nombre de valeurs, parmi lesquelles la tolérance. La tolérance qui veut tout simplement que les êtres humains doivent se respecter mutuellement et dans toute la diversité de leurs croyances, de leur culture ainsi que de leur langue. Donc c'est dans ce cadre-là que, suivant notre mandat, nous promouvons ces idéaux et la MONUSCO, plus précisément sa division de l'information publique, a entrepris cette campagne dans cette dynamique-là.
Oui, le thème de cette campagne, c'est le dialogue interreligieux comme facteur de promotion de la paix. Qu'est-ce que cela sous-entend?
Mais tout simplement, lorsque nous choisissions ce thème, d'une certaine façon qui nous a été dictée par le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui, à l'occasion de la journée de la non-violence de l'année dernière, disait donc dans son message qu'il a fait de la prévention une priorité absolue dans le programme d'action de l'ONU pour les 5 prochaines années. Et dans cette prévention-là, il demandait à ce que nous redoublions d'efforts pour promouvoir l'entente entre les religions et les peuples. Donc nous avons saisi cette occasion de ce message pour nous lancer dans cette thématique-là. Les innombrables interpellations, d'ailleurs, lorsque nous avons commencé cette campagne en avril, qui nous sont revenus en feedback, nous ont confortés dans cette idée qu'il fallait qu'on aille de l'avant un peu plus dans cette réflexion-là.
Aïssa Toula Batouré, est-ce que vous pensez réellement que les religions ont vraiment un rôle à jouer par rapport à la paix dans ce pays?
Oui, les religieux ont un rôle à jouer parce que en République démocratique du Congo, nous avons quand même vu que les grandes religions sont pratiquées par de nombreux fidèles. L'on remarque cependant que ces religions sont très mal connues par les personnes qui ne les pratiquaient pas. Il faut cependant reconnaître quand même qu'il y a une tradition de dialogue interreligieux à travers l'engagement social et civique et au niveau des hauts responsables religieux qu'il est bon d'encourager et de soutenir. C'est pourquoi nous avons à nouveau, pour me répéter peut-être, choisi ce thème pour l'agiter pendant toute une année.
Et pourquoi ne pas impliquer aussi les hommes politiques et la société civile dans cette campagne?
Mais tout le monde est impliqué. Je pense que tout le monde a son rôle à jouer. Les religieux, certes, qui doivent faire en sorte qu'un dialogue continuel entre membres et différentes cultures et différentes religions s'instaure. Mais le dialogue interreligieux comme facteur de promotion de la paix est une thématique qui implique nécessairement la collaboration des élites et de toutes les élites politiques, intellectuelles, pas seulement des élites d'ailleurs, de tout le monde.
Donc on dirait que c'est en fait la deuxième phase d'une campagne que vous avez déjà lancée en avril, vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure.
Voilà, tout à fait, qui a été démarrée donc en avril 2013, que nous poursuivons dans cette deuxième phase. Nous essayons de toucher d'autres cibles. La première cible était évidemment les leaders religieux que nous exhortions à poursuivre dans cette dynamique de dialogue et descendre ce dialogue à la base. La deuxième phase va avoir d'autres cibles qui sont les enseignants, les écoliers, la population d'une manière générale, parce que nous interviendrons dans les radios de marché, nous parlerons aux vendeurs, aux vendeuses, aux gens qui fréquentent ces marchés-là, et nous mènerons un certain nombre également de démarches comme des plaidoyers.
Et vous avez des objectifs spécifiques pour cette deuxième phase?
Oui. Alors, l'objectif principal est de renforcer la compréhension mutuelle des pratiques religieuses au sein de la population. D'autres sous-objectifs, il s'agit de sensibiliser à la tolérance et à l'entente religieuse de la population en général et les publics cibles en particulier.
Aïssatou Labatouré, la RDC ne se limite pas seulement à Kinshasa. Avez-vous prévu d'étendre votre campagne en province, comme en Okivu par exemple?
Oui, la RDC, vous avez raison, ne se limite pas seulement à Kinshasa. Donc si nous relisons la déclaration des leaders religieux du 25 avril 2013, nous voyons que des actions sont prévues pour être engagés sur toute l'étendue du territoire. Et dans ce sens, nous appuierons notre partenaire qui est le COLSIC, le Conseil des chrétiens, laïcs et musulmans du Congo.
Vous avez parlé des plaidoyers. Il y aura, par exemple, des plaidoyers pour une journée nationale et une journée mondiale du dialogue interreligieux. Pourquoi?
Les journées nationales et internationales ne sont pas créées, contrairement à ce que beaucoup pensent, pour faire la fête ou produire de beaux discours. Elles sont célébrées pour soit un devoir de mémoire, soit pour mettre en exergue le temps des manifestations à un problème de société. Cela peut être un problème existant, comme le sida par exemple, cela peut être un problème latent. Et nous pensons que vu l'environnement proche de la RDC et ce qui s'y passe, nous pensons que nous pouvons mener cette action de prévention en faisant un plaidoyer afin qu'il se tienne une journée nationale décrétée par le pays, une journée internationale du dialogue interreligieux qui pourra servir au monde entier comme action de prévention à des tragédies, à des drames qui peuvent être évités.
Vous avez autre chose à dire par rapport à cette campagne que vous avez lancée?
Par rapport à cette campagne, tout simplement peut-être saisir l'occasion qui m'est offerte par vous pour remercier nos partenaires, tous nos partenaires de la société civile avec qui nous menons souvent des campagnes de sensibilisation de ce genre, mais spécialement pour cette fois-ci, le COLSIC avec qui nous travaillons vraiment d'une étroite manière, qui pour cette campagne s'est dispersée sur l'ensemble de Kinshasa et des médias pour parler aux populations de cette thématique-là. Je voudrais également profiter de cette occasion, si vous le permettez, pour présenter mes meilleurs voeux à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Aïssatou Labatouré, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Des clubs et associations UNESCO au sein des établissements supérieurs et universitaires de Fizi au Sud Kivu. Une initiative de l'Association des Nations Unies en RDC à New Congo. Selon le chef de section de l'antenne Ouvira Fizi de cette association, l'objectif est d'amener les étudiants de la place à connaître les idéaux des Nations Unies. Lusambia Wanumba donne plus de détails sur l'objectif de cette initiative. Il est au micro de Moutar Matezo de la radio communautaire de Baraka pour Radio Okapi, c'est notre nouvelle de province.
Parmi nos activités, nous installons les clubs au niveau de l'université. C'est juste pour perpétrer les principes et les objectifs des Nations Unies qui ont milité pour la création des Nations Unies. Les universités, les classes sociales qui, à ce niveau, doivent être bien informées sur les objectifs et les principes pour lesquels les Nations Unies ont été créées. C'est pourquoi nous avons créé un club. C'est un club qui se chargerait de promouvoir les idéaux et les principes des Nations Unies au niveau de l'université. Il faut travailler. Nous, Annie, nous accompagnerons pour toutes les activités que nous aurons à faire au niveau de l'université. Nous allons les accompagner d'une manière ou d'une autre.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
C'est M. Alain pour la RTNC. Je pose une question à M. Martin Kobler, le représentant. L'opération contre l'FDLR et les ADF Nalu est lassée, mais je voudrais plutôt comprendre l'aspect politique. Vous êtes en train de lasser cette opération. C'est quoi la finalité? Contraindre le FDLR et les ADF Nalu dans la brousse, ou bien finir à envoyer ces rebelles chez eux, au Rwanda et en Ouganda, parce qu'ils ont leur pays respectif.
Cette question a été posée le mercredi 18 décembre au cours de la dernière conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Écoutez ce qu'a été la réponse de Martin Kobler.
Notre stratégie ici est très très claire, que nous avons un mandat à remplir, c'est de combattre toutes les forces armées ici. Maintenant nous avons une stratégie, notre première priorité est le combat contre le FDLR. Nous sommes avec dans ces questions en contact avec Rwanda. On a aussi les planifications maintenant entre les Chief of Defense Staff qui planifient les opérations contre le ADF. C'est pas exclu. Notre première priorité, ce qu'on a fait dans la semaine dernière dans notre combat contre le FDLR. On est aussi en contact avec les pays voisins ici sur les questions. Parce que à la fin du jour, et c'est mon désir pour l'année prochaine, il faut stabilité ici dans la région. Si on a des actions militaires, si on a les actions civiles, mais aussi si on inclut les pays voisins dans un système de sécurité régionale. Parce que la stabilité ici à l'est du Congo est mieux pour les mieux pour le Rwanda, est mieux pour Ouganda.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Mbondo Brown, marié, et père de deux enfants. J'ai fait une formation Sciences Po, dans le département des relations internationales, et laquelle formation avait été complétée par une formation technique plus tard de la radiotransmission. Je travaille au HR Bouburg, en Équateur. Je suis au HR depuis 2005. J'avais d'abord, premièrement, occupé les fonctions de radio-opérateur. Donc, je combine l'informatique et la communication radio. Mes tâches, essentiellement, consistent à faciliter la communication entre les bureaux du HR sur la planète. Je m'assure d'abord que tout le réseau Internet marche parfaitement. Le réseau radio aussi marche parfaitement. C'est-à-dire que je suis là chaque matin pour faire le monitoring et connecter les bureaux, faciliter la communication aux collègues, tant par Internet que par radio. Radio VHF et Radio HF. Et puis sur terrain, quelquefois, j'assiste les collègues comme le partenaire opérationnel du HR quant à la communication, la maintenance des équipements, éventuellement la formation sur les opérations radio, comment opérer une radio, ce que soit une radio, de manière à ce que les gens comprennent au moins les équipements qu'ils utilisent et comment ça fonctionne. Avant de venir au HR, j'ai travaillé avec la MONUSCO. Avec la MONUSCO, j'ai d'abord presté en tant qu'assistant de finances. À Mbandaka, après, je suis allé avec la MONUSCO. C'était vraiment, vraiment au début de la mission, hein, presque, donc 99-2000. Et après les finances, j'allais à l'aviation, où je travaillais à la tour de contrôle, comme Air Traffic Controller. Et c'est grâce à cette expérience que j'ai acquise là, que maintenant je suis venu travailler à la radio, à la communication, bref, maintenant au sein du HR. Pendant mes temps libres, généralement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le divertissement. D'abord le cinéma, pas trop des films d'action, mais je suis vraiment très passionné des films romantiques. Quant à la musique, j'aime la rumba congolaise. Mais aussi, j'aime beaucoup la musique américaine, le R&B et ainsi que le reggae. Alors maintenant, pendant mes temps libres, souvent, je consacre le plus de temps le soir. J'ai fait des marches vers spirale, j'ai fait le jogging, et un peu de natation aussi. Le football, ça, c'est l'une de mes passions depuis. Pour le mai, mon repas préféré, ça, je vous l'ai dit, même s'il y a des restrictions sanitaires, quelquefois, mais en tout cas, je suis très, très amoureux de Fumbwa. C'est pas Mukongo, mais j'ai appris à aimer le Fumbwa parce que quand j'étais sur le campus, il y avait des amis qui étaient Bakongo, qui aimaient beaucoup trop le Fumbwa et c'est contaminer ces goûts-là. Et à part le Fumbwa, les haricots aussi, c'est l'un de mes repas le plus préféré. Un peu de légumes aussi, ça gaze bien. Depuis que j'étais à l'université, j'ai rêvé beaucoup de travailler pour les Nations Unies. Pour moi, que j'ai trouvé l'organisation la plus humanitaire au monde. Voici aujourd'hui mon rêve réalisé grâce à l'assistance du Très-Haut. Je suis au HR. Je suis maintenant aux Nations Unies après avoir été. Parce que ça, j'ai pas dit ça plus tôt. Après la MONUSCO, j'ai travaillé pour une autre agence des Nations Unies, l'UNOPS. Mais là, je ne suis pas resté très longtemps, c'était juste pendant 6 mois. Bref, c'est ma maison des Nations Unies. Donc, l'après-agence, peut-être, j'entrevois continuer toujours avec le système des Nations Unies, parce que pour moi, c'est le meilleur employeur au monde. Je ne vais pas parler de la rémunération, mais je vais parler de la discipline qui règne au sein de l'organisation, la façon dont les gens travaillent, l'expérience que les gens acquièrent. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. C'est un modèle pour moi, les Nations Unies, la façon dont les gens travaillent. Je compte continuer. Voilà pourquoi j'ai envie de faire beaucoup d'autres formations, de manière l'agence, que cela puisse me propulser, toujours rester au sein de l'agence, mais peut-être échanger d'ambition et aller plus loin, pourquoi pas occuper un jour le poste le plus haut au sein des Nations Unies. Voilà. Donc c'est cela.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Nous sommes pendant la période des fêtes, une date à retenir la semaine prochaine et ce sera déjà l'année prochaine, le 1er janvier, ce sera bien entendu le début de cette nouvelle année, mais cette date est aussi consacrée aux Nations Unies, c'est la journée mondiale de la paix. La fin de ce numéro du magazine des Nations Unies, présenté par Mila Kimbuni, avec l'assistance technique du côté de la régie de Patrick Kiasongwa, supervisé par Nicole Ngaka, coordonné par Honoré Missenga Kalala. Vous pouvez également retrouver ce magazine sur votre site www.radiocapi.net. Envoyez-nous vos suggestions, vos questions ou vos remarques en postant un commentaire en dessous de l'émission sur www.radiocapi.net ou en nous appelant directement au 082 30 76 630. Les SMS sont permis. Vous pouvez toujours aussi nous écrire sur notre adresse mail magun@radiocapi.net. Je vous souhaite une excellente journée dominicale à tous, mais surtout des joyeuses fêtes de fin d'année.